Question d'islam par Al Bunshir. Aujourd'hui, ce sera un entretien avec Slimane Zeghidour à propos d'un récit autobiographique mêlant l'histoire personnelle à la grande histoire. Slimane Zeghidour, bonjour.
Bonjour.
Slimane Zeghidour, vous êtes écrivain, essayiste, journaliste, grand reporter et vous êtes actuellement éditorialiste à TV5 Monde. Et c'est avec une grande joie que j'ai ce plaisir à m'entretenir avec vous. Vous avez fait paraître un ouvrage intitulé « Sors, la route t'attend » aux éditions Les Arènes. Et vous parlez de votre trajectoire de vie. Elle se poursuivra, et nous l'espérons pour nous tous, qu'elle sera la plus longue possible. Et ce qui m'a intéressé à titre personnel, et je me fais le médiateur entre vous et nos amis auditeurs, c'est que votre présence au monde, votre venue dans ce monde, signe, comme vous le dites si bien, la fin d'un monde. Et vous parlez de l'Algérie, de la Kabylie, des valeurs de la France, de cette période dite de guerre d'Algérie, guerre d'indépendance d'un côté, guerre de libération, et de l'autre, c'était appelé d'abord les événements, des événements de pacification, puis on reconnaîtra 37 ans plus tard, après l'indépendance, que c'était aussi une guerre. Mais ce qui nous intéresse aussi, au premier plan, conformément à l'émission, ce sont deux approches de la vie de la tradition religieuse islamique. D'abord un islam débonnaire, pacifique et pacifié, apaisé, tranquille. Et puis par la suite, un islam plutôt rigoriste et normatif et générateur de beaucoup de conflits. Comment êtes-vous amené, Slimane Zeghidour, alors que vous êtes encore dans l'après-midi de votre vie, à vouloir coucher par écrit vos mémoires?
Alors, ce récit, je le porte en moi depuis l'adolescence. Quand je dis « je le porte en moi », ce n'est pas seulement que je porte un stock de souvenirs, mais je porte réellement une sorte de prurite, une envie, presque un sentiment de devoir de raconter cette période de ma vie qui est la période qui a coïncidé avec la guerre d'indépendance dans les montagnes de Petite Kabylie. Et maintenant, avec le recul, j'essaye de comprendre pourquoi j'ai toujours éprouvé, depuis l'adolescence, c'est-à-dire une période où je n'étais pas encore politisé, où je ne me posais absolument pas ces questions d'histoire, de mémoire, d'identité. Et je crois pouvoir dire, avec le recul, que j'ai éprouvé ce besoin, peut-être, de l'écrire par un souci de réparation. Je m'explique. Et c'est une explication a posteriori. C'est que ce monde dans lequel j'ai grandi, qui est un monde paysan, montagnard, extrêmement archaïque, et je crois avoir raconté dans le livre, dans ces replis du Djebel où nous vivions, nous ne voyions pas de Français. Nous étions, bien que nous étions, notre patelin était entouré à 40 km de rayon par des villages qui s'appelaient Strasbourg, Waldeck-Rousseau, Lafayette,
Saint-Arnaud,
Duquesne, Périgueville, où chacun de ces villages français avait son kiosque à musique, sa mairie, sa devise républicaine sur la mairie. Nous, nous vivions un peu dans le néolithique. Et c'est seulement la guerre qui a poussé l'état-major français à nous sortir de ces replis de Djebel pour nous mettre dans des camps de regroupement entourés et contrôlés par l'armée. Donc la guerre a été pour nous à la fois un arrachement à notre univers millénaire et mémorial, et en même temps l'entrée avec fracas et l'épée dans les reins dans la modernité. Car il faut le rappeler, ces camps n'étaient pas destinés à nous laisser mourir, mais à nous, tactiquement, à nous soustraire à l'influence du FLN que nous nourrissions. Mais en même temps, stratégiquement, les camps devaient être des camps de francisation accélérée pour nous faire basculer définitivement dans le camp de la République. Bon, la République s'est réveillée quand même 128 ans après avoir pris l'Algérie. Donc, je reviens à mon idée initiale, c'est-à-dire de réparation. C'est que ces souffrances que nous avons connues dans l'arrachement, où nous avions laissé nos récoltes sur pied, perdu notre bétail, nos maisons, la souffrance dans les camps, c'était quand même des camps extrêmement, où nous étions très démunis, dans l'Algérie indépendante, qui a fait de la guerre d'indépendance un mythe de construction nationale. Je n'ai jamais vu dans un film, un documentaire, une conférence, un colloque, un mot sur la souffrance des gens des camps, sur le déracinement, le déplacement et la perte de tout un univers rural. Et je crois pouvoir dire, pour autant que je puisse être objectif, qu'un des nerfs de ce livre, c'est aussi un souci de réparation et en même temps un souci de témoigner d'un univers qui n'existe absolument plus. On a perdu les charades, les contes, le vocabulaire, les pratiques, les vêtements, les plats, tout a été perdu.
Ce sont ces choses-là qui nous intéressent et dont vous êtes encore le témoin vivant, et tant mieux, et vous vous placez sur un plan testimonial pour nous raconter ça. Je voulais pas vous interrompre tout à fait au début, mais quand vous dites que la République s'est réveillée tardivement, j'ai lu sous votre plume que Jacques Soustelle disait « il faut construire et instruire ». C'était ces deux mots d'ordre, mais c'est venu, hélas, peut-être et sûrement trop tard.
Et comme le dit Oscar Wilde, le propre des bonnes résolutions est qu'on les prend toujours trop tard.
Oui, et c'est pour ça que d'ailleurs Jacques Soustelle a été balayé en quasiment un an ou un peu plus. Oui. Qu'est-ce que vous gardez très tôt, votre souvenir le plus lointain? On a toujours presque un mur de Planck, auraient dit les physiciens, en deçà duquel on ne peut pas aller au niveau de la mémoire. J'ai le mien, mais je ne le dirai pas, et ce n'est pas moi qui suis interviewé ici. Le vôtre, c'est qu'on vous a rasé le crâne, ouais. Et vous voyez vos touffes de cheveux tomber sur la neige, et au loin, vous voyez aussi les arbres un peu brunâtres ou noirs, tranchés avec la blancheur aussi de l'horizon neigeux, et vous voyez là une sorte de similitude entre les deux images.
Oui, je commence le livre avec cette scène que je considère, à tort ou à raison, que j'ai toujours considérée comme mon souvenir ultime. C'est-à-dire que si je plongeais la main dans le puits de mes souvenirs, c'est le fond. Ce souvenir, c'est que je suis accroupi à l'intérieur du gourbi. Je suis accroupi, le menton collé à la poitrine. On me rase. Je vois des touffes de cheveux noirs qui tombent au milieu d'une mousse de savon blanche, noir et blanc. Et puis, sans relever ma tête, je lève mes yeux s'évadent en dehors de la portière basse du gourbi et vont à l'horizon. Et qu'est-ce que je vois à l'horizon? Je vois des arbres, des silhouettes d'arbres noirâtres sur une masse de neige blanche, noir et blanc. Et dans ma tête, non seulement c'est le plus vieux souvenir, mais c'est la plus vieille pensée. Je me dis, tiens, mes cheveux noirs dans une mousse de savon blanc, c'est la même chose que les arbres noirs dehors sur une masse de neige blanche.
C'est délibérément que j'ai voulu commencer par ça, moi aussi. C'est pour dire que allez, j'utilise un terme savant. La pensée cognitive commence aussi par la vision, la méditation, la contemplation, la réflexion. Et pour vous, c'était ça, parce qu'a posteriori, vous l'avez théorisé ainsi. Disons simplement pour les auditeurs, quand vous a rasé le crâne, c'est pour qu'on vous immunise contre le typhus.
Oui, le typhus qui a fait des ravages, évidemment, en Algérie, surtout au XIXe siècle, mais dans le spectre a continué à hanter les campagnes jusqu'aux années de la guerre.
Ça correspond au déclenchement de l'insurrection des fils de la Toussaint, comme on les appelle ainsi. Revenons, si vous voulez bien, Slimane Zeghidour, à la foi, foi, F-O-I, la foi, du fidéisme de vos parents. Comment, si tant est que vous puissiez le restituer comme ça, quel était l'univers théologique, transcendantal, métaphysique dans lequel vous avez baigné?
Je raconte évidemment tout cet univers rural dans lequel j'ai grandi. D'abord, une première précision. Je ne me souviens pas avoir entendu le mot « islam ». Mais bien entendu, les gens étaient musulmans, se sentaient très certainement fiers d'être musulmans. En tout cas, ils se sentaient, pas une question de fierté, parce que fiers par rapport à qui? Ils étaient en harmonie avec le paysage. Ce dont je me rappelle, c'est que, en dépit de l'extrême dénuement que je ne ressentais pas comme un dénuement, puisque nous n'avions aucun terme de comparaison. La pauvreté n'était pas chez nous un malheur, puisque nous n'avions pas de riches en face de nous pour comparer. Notre pauvreté était notre vie, tout simplement. Ce dont je me rappelle, et j'en reste profondément imprégné jusqu'à maintenant, puisque quand j'y retourne, j'en ressens encore les effluves, c'est un sentiment d'émerveillement par rapport à la nature. Les arbres, les ravins, les falaises, les courbes de l'Oued, les rangées, les massifs de lauriers roses qui sont sur les galets, l'ombre des arbres dans l'après-midi sur l'herbe jaunie en été, le bruit des feuilles de peupliers quand une petite brise passe au milieu des feuillages et quand j'entends ce froufrou, ça m'a toujours émerveillé depuis tout petit. Et la religion, on ne savait pas que c'était la religion, mais dans cet univers bucolique agraire, les cultes qui sont des superstitions, c'était les cultes, la vénération des vieilles sources. La source étant évidemment un élément vital, on vénère les vieilles sources. Les vieux arbres, les vieux chênes, les vieux frênes sont vénérés. Sont censés vénérer parce qu'ils sont censés être le refuge, le logement de saints protecteurs qu'il faut soigner. Il ne faut pas prononcer de gros mots à portée d'oreilles de ces lieux. Ce sont des lieux qui sont vivants. Les arbres vivent, ressentent, peuvent témoigner contre vous le jour de la résurrection. Et donc, c'est un univers habité par tout un peuple invisible de saints protecteurs la nuit et de saints malfaisants la nuit.
Aussi.
Nous vivions au milieu d'une population de dieux, de demi-dieux, de semi-dieux invisibles. Et au-dessus de toute cette population, il y a le marabout qui est sur une colline. C'est l'ancêtre fondateur qui est en même temps un saint protecteur qui continue de nous regarder, de veiller sur nous bien après sa mort. C'est-à-dire qu'en fait, le véritable culte du Maghreb rural, c'est le culte des ancêtres, qui est plus fort que tout. Et je me souviens de ma pauvre mère, paix à son âme, qui de temps en temps, quand j'étais un peu trop expiègle, elle me disait « Attention, Dieu a dit, il faut respecter tes parents avant de me respecter moi-même. »
Et elle a tout à fait raison, c'est l'enseignement fondamental qui a toujours été dans la sagesse populaire, y compris aussi dans les écritures dites saintes. Slimane Zeghidour, quand vous disiez là à l'instant que nous n'avions pas d'éléments de jauge à l'aune de laquelle nous pouvions comparer notre état matériel et donc la pauvreté pour nous était plutôt vécue, il n'y avait même pas ce sentiment
comme un
de pauvreté,
état de nature,
oui. Comme un état de nature, j'ai pensé tout de suite à ce passage de l'Ecclésiaste auquel j'emprunte, c'est que l'homme est heureux. Il se contente de ce qu'il a tout en étant heureux. C'est ça le véritable riche. Et donc les notions de richesse et de pauvreté, vous ne les percevez pas ainsi. Et votre richesse, en réalité, était cet émerveillement de la nature. Les méandres de l'Oued Djenjen, vous en parlez à longueur de votre ouvrage, mais aussi toute cette communion avec la nature. Et le point fondamental, c'est que bien que votre famille et puis les voisins, les cousins eussent été musulmans sans le faire savoir, naturellement, harmonieusement, il y avait aussi ce culte des ancêtres. Ça ne paraît pas, c'est une question que je vous pose, par rapport au rigorisme qu'on verra plus tard, quelque chose de contraire à l'idée purificatrice du monothéisme islamique, transigeant, radical, jaloux et aride.
Oui, bien sûr. C'est même, je dirais, l'antithèse. En tout cas, ce que je peux dire rigoureusement, c'est que quand j'étais petit, quand j'avais un problème et je pensais à quelque chose de supérieur, je pensais au marabout de Sidi Ali, qui est notre marabout, notre 100 ans protecteur. Et je l'imaginais un peu comme le dieu des illustrations de Gustave Doré. Et la formule que nous avions, c'était de dire « Sidi Ali, jette un pan de ton burnous, l'aile de ton burnous sur moi pour me protéger. » Et j'imaginais un beau vieillard avec une barbe blanche qui étendait son burnous comme l'aile d'un aigle, la jetait sur moi pour me serrer contre son flanc. C'était ça l'image de Dieu. Et aujourd'hui, ça peut paraître incroyable vu la sur-islamisation de posture qu'il y a en Algérie, le mot Allah, je crois l'avoir vraiment entendu quand on était dans le camp, c'est-à-dire beaucoup plus tard, et je ne veux pas anticiper l'entretien, mais la première fois que j'ai vu un imam appelé à la prière et des hommes se ranger derrière lui pour prier, c'était des hommes sous uniforme français, c'était des tirailleurs sénégalais dans le camp. Jamais je n'avais vu d'imam ou de mosquée ou de prière en commun dans mon village.
Alors continuons encore les débuts, votre découverte à la fois du monde environnant, mais aussi du monde intérieur. Et vous dites, ça me fait rappeler, moi, en ce qui me concerne d'une manière livresque, que au moment de la révélation coranique, les Arabes, au temps de cette réception, vivaient dans un monde peuplé de farfadets, de ghouls, de djinns, d'êtres bienfaisants et d'autres malfaisants, etc. C'est comme à travers 1400 ans, 1500 ans, vous avez vécu, vous viviez dans le même contexte.
Dans le même contexte, sauf que ce n'est pas l'Arabie, on est en Méditerranée. Et vous savez que dans le Maghreb, il y a une période dont on parle très peu, qui est une période sémitique, c'est la période carthaginoise. On a eu une période carthaginoise, c'est-à-dire sémitique, phénicienne, cananéenne, donc originaire de la Palestine historique, 12 siècles. Et la culture cananéenne, c'est la culture du culte des saints qui sont mis sur des collines. D'où le Baal, par exemple, le dieu Baal, le dieu de la fertilité. Il y a le Baal Amon. Chaque ville avait son Baal. Et on retrouve cette tradition dans le christianisme puisqu'il y a Notre-Dame de Lorette, Notre-Dame d'Afrique, Notre-Dame de toutes les régions avaient Notre-Dame. Et je me demande si le culte des marabouts chez nous, c'est-à-dire sur chaque colline qui domine chaque village, il y a un mausolée où est enterré un santon mythique ou ayant existé. Donc il y a tout ce fond carthaginois. Il y a le substrat berbère qui est immémorial et qui imbibe toutes nos pratiques. Et il y a l'héritage romain. Nous avons eu 1000 ans de présence romaine et byzantine, plus l'immense apport de l'islam. Donc c'est un mixte, un bouillon de culture que nous, dans la montagne, nous avions absorbé à travers le filtre de toutes ces traditions, mais aussi superstitions, tabous, croyances magiques, naturalistes que nous trimballons depuis 3000 ans.
Alors,
et qui aujourd'hui ont disparu. C'est ça l'horreur.
Oui, et presque à jamais.
Presque à jamais. Oui. Absolument.
Cet environnement, j'y reviens encore, de merveilleux, de magique, de superstition aussi, d'irrationnel, n'avait pas de conséquences sur la santé mentale, la santé physique des uns et des autres, où il pouvait y avoir, pourquoi est-ce que je pose la question, et je n'ai pas fini ma phrase, c'est cette scène de scarification au bas du dos du nouveau-né. C'est par superstition pour qu'il puisse survivre. Et dont oui. Vous avez été vous-même, j'allais dire, victime première.
Absolument. Oui, vous parlez de cette scarification qui existait dans la petite Kabylie, dans notre région, mais apparemment pas en grande Kabylie, pas à Oran, pas dans d'autres régions du pays. Donc d'où est-ce que c'est une tradition donc, qui consiste à prendre le nouveau-né à partir de l'âge de 2 mois et avec une lame gilette, de faire des hachures dans le bas du dos, sur les reins, de haut en bas, de 2-3 cm. Et donc, pendant que la maman est en train de hachurer le bas du dos du bébé qui hurle, elle mâchonne des grains de cumin qu'elle crachote à la fin dessus. Donc, combien d'enfants sont morts de tétanos à cause d'une lame rouillée? Je ne sais pas. Ça, c'est dans le néon des sociétés orales qui n'ont pas de tradition écrite, de l'absence d'État, parce que tout ça se produit en France, car l'Algérie n'est pas une colonie, c'est un triple département français. Tout cela, c'est en France, c'est-à-dire qu'à la même époque, on a du Charles Trenet à Paris, on a de la musique, on a des trams qui se modernisent. Tout ça, c'est dans les replis de la France profonde.
Et on avait des prix Nobel de physique à ce oui. moment-là, avec oui. Alfred Kastler et d'autres, et la pensée philosophique.
Et Sartre.
Et Sartre, justement.
Et Jean pensée. Cocteau.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec Slimane Zeghidour, écrivain, essayiste, journaliste, grand reporter, éditorialiste à TV5 Monde, un intellectuel avec qui il faut à la fois compter et surtout écouter. Nous poursuivons cet entretien ayant comme base de discussion son récit autobiographique paru aux éditions Les Arènes, Sort, virgule, La route t'attend. C'est une pérégrination, une trajectoire de vie. Et ce qui nous intéresse à l'émission, ce sont deux visions d'une tradition religieuse qui ne s'appelait pas islam, vous nous l'avez dit longtemps, en tout cas vous ne commencez. Quand est-ce que vous avez entendu pour la première fois le vocable islam?
Je crois, pour autant que je puisse être objectif, je crois que je l'ai entendu à Alger. Quand je suis allé à l'école, parce que nous avons, juste après l'indépendance, nous avons quitté le camp pour revenir dans notre village. Nous revenons au village, il est envahi de ronces, les gourbis sont branlants, mais nous avons tout de suite constaté que le séjour dans le camp qui nous a fait connaître la médecine et l'école, cette médecine et cette école rendaient impossible le retour en arrière. Il fallait qu'en septembre 62, nous allions à l'école, et où aller à l'école, le FLN qui a obtenu l'indépendance, au lieu de s'occuper de nous, des 2,5 millions de ruraux déplacés dans 1,000 camps, a commencé à se battre pour le pouvoir à Alger, et nous étions livrés à nous-mêmes, complètement largués. Nous sommes partis à Alger, et à Alger, je découvre pour la première fois, je vois la mer, je vois l'électricité, je vois une mosquée, je vois une femme voilée, je vois un homme gros. Nous ne savions pas qu'il pouvait y avoir des gens qui ont une grosse bedaine, de grosses jambes, des visages ronds. Je n'avais jamais vu ça, je ne pouvais même pas imaginer que ça existait. Donc je découvre tout ça et je découvre la mosquée et le mot Allah.
En arabe, parce que c'est le nom de la divinité en langue arabe, Allah n'est pas la divinité mahométane comme certains le
Bien
pensent.
Sûr.
Et ce n'est pas ce
Mais
que
nous
vous
nous disions l'équivalent d'Allah, Rabbi, c'est-à-dire mon Seigneur.
Slimane Zeghidour, là immédiatement, je pense à cette double trahison que vous mettez en exergue. La première, c'est celle de la République par rapport aux idéaux, aux valeurs de la Révolution, d'une part, tout au long de cette période de colonisation. Et la seconde trahison, c'est celle du FLN par rapport aux idéaux pour lesquels il y a eu insurrection. Et donc c'est coup sur coup il y a eu manquement à la parole donnée, manquement à la fidélité aux valeurs pour lesquelles, d'un côté, on avait une mission civilisatrice et de l'autre, une volonté de recouvrer sa liberté.
Et c'est-à-dire que ni la France ni le FLN n'ont appliqué leurs principes dont ils se revendiquaient en Algérie. L'Algérie était un territoire donnant droit, je m'explique. Souvent, lorsque nous parlons de la colonisation française de l'Algérie, dans un discours anticolonialiste qui est, à mon avis, un peu anachronique, on insiste seulement sur la violence. La violence qui était évidemment, la violence de la conquête a été abominable, affreuse, atroce. Mais ce n'était pas ça le plus original, car la violence que nous avons subie des troupes d'occupation française n'était pas une violence spécialement faite pour nous parce que nous étions des Arabes, des indigènes, des autochtones, des musulmans. La petite Kabylie, ma région, a été pacifiée, comme on disait, par des troupes qui avaient fait leurs armes en Vendée. C'est avec ce qu'on appelait pour la Vendée les colonnes infernales. C'était des groupes de choc terrifiantes qui dévastaient tout sur leur passage. Donc cette cruauté avait été déjà testée, exprimée en France contre d'autres Français. Et ensuite, après l'Algérie, les troupes qui ont pacifié l'Algérie sont revenues réprimer des manifestations ou des sécessions en France. Donc, l'originalité, ce n'est pas la cruauté. Ce qu'on doit mettre en valeur, non pas pour récriminer ou demander à qui que ce soit de battre sa coulpe, non, pour mieux comprendre ce qui s'est passé, ce qui est encore à l'œuvre dans les abysses de notre inconscient collectif algérien et français et franco-algérien, c'est que pourquoi la France, dans un territoire qui était un département français, a-t-elle toléré deux statuts juridiques différents? C'est-à-dire que nous étions depuis 1865 des nationaux français, mais pas des citoyens. Pourquoi la République a-t-elle accepté délibérément, en toute conscience, de fabriquer un statut de l'indigène, c'est-à-dire du sous-citoyen, et de vivre avec pendant quatre générations? Pourquoi a-t-elle accepté de ne pas appliquer ces principes, par exemple de l'instruction obligatoire? En 1954, dans les départements français d'Algérie, seuls 14% des indigènes allaient à l'école. Pourquoi la France a-t-elle accepté de bafouer ses propres fondements? Je pense que ce questionnement est plus fécond, plus fructueux que de stériles rappels de la simple violence.
Et qui sont débités en gerbes de voix acrimonieuses. L'important, c'est d'en parler d'une manière apaisée et d'essayer de.
Et fructueuse, il faut qu'on en ressorte quelque chose.
Et la seconde trahison, c'est celle qui viendra aussi après.
Après l'indépendance, absolument, puisque, comme je l'ai dit, nous sommes retournés dans notre village totalement exsangue. Personne n'est venu s'occuper de nous. Je raconte dans le livre qu'il y avait, au lendemain de l'indépendance, des escadrons de la mort, de types qui allaient appliquer des vengeances pour des histoires de femmes de dette, que mon oncle Larbi a été coupé à la hache, on ne savait même pas comment l'enterrer tellement il était en morceaux, et que jamais il n'y a eu une commission d'enquête, jamais il n'y a eu un rapport sur cet assassinat. Jamais nous n'avons même pas osé porter de plainte tellement nous étions terrorisés par les types qui l'ont tué. Et au moment où je vous parle, les bourreaux qui l'ont taillé en pièces sont encore vivants. Bon pied, bon œil, et il n'y a jamais eu de sanction, je dirais même pas de rapport écrit sur cet horrible assassinat.
Quand il y a un déni de justice, quand le droit n'est pas dit, quand les promesses d'un État démocratique ne sont pas tenues, il ne faut pas s'étonner que, sans vouloir dire que la violence est intrinsèque à tel ou tel peuple, ce qui n'est absolument pas acceptable, vous pensez que, de fait, cette résurgence de la guerre que vous appelez dans votre ouvrage « La guerre civile » était une sorte de retour de flamme plus ou moins attendu Et si c'est le cas, ça s'est drapé ou ça a utilisé le vocabulaire ou en tout cas l'idéologie de l'islamisme radical et l'islamisme politique.
Oui. Vous parlez de la guerre civile qui a commencé en 92. Mais bien sûr que c'est une guerre civile. Il y a des Algériens qui disent que ce n'est pas une guerre civile puisque les islamistes étaient des mercenaires des monarchies du Golfe. Mais je leur dis la même chose. La guerre d'Espagne, est-ce que c'était une guerre civile? Ils me disent oui. Je leur dis pourtant, dans le camp républicain, il y avait des brigades internationales qui venaient de tous les pays du monde, y compris des Algériens de France d'ailleurs. Et que dans les troupes franquistes, il y avait des tirailleurs marocains. Mais c'était une guerre civile, vous en convenez. Donc c'était bel et bien une guerre civile, puisque ce sont des Algériens qui se sont entretués entre eux. Alors maintenant, avec le recul, j'ai mon idée sur l'affaire. En fait, en 1962, nous avions signé un cessez-le-feu entre Français et Algériens. Mais la guerre d'Algérie était une triple guerre civile. C'était une guerre civile entre Algériens européens et Algériens musulmans. C'était une guerre civile entre Français, puisqu'il y avait
À ce niveau-là, vous avez tout à fait raison, le gentilé algérien concernait l'Européen vivant en Algérie.
Ah, complètement. Après 4 générations, ils sont devenus des Algériens. Donc, une guerre civile entre Algériens, Européens et musulmans. Une guerre civile entre Français, puisqu'il y avait des Français qui soutenaient activement le FLN. Une guerre civile entre Algériens, puisqu'il y avait 5 fois plus d'Algériens dans les troupes, dans les supplétifs de l'armée française qu'il n'y en avait d'Algériens dans le maquis. À l'indépendance, on a signé un cessez-le-feu entre Français et Algériens. Les Français ont bien compris qu'il y avait une nécessité de cessez-le-feu entre Français. C'est pour ça qu'après l'indépendance, ils ont fait 6 lois d'amnistie. C'est-à-dire que même les pires criminels de guerre de l'OAS ont été amnistiés, pas pour leurs beaux yeux, mais pour apaiser la société française et établir une paix entre Français. Mais nous n'avons jamais signé de cessez-le-feu entre Algériens, entre Harkis et Maquisards, entre les Algériens de divers camps. La guerre civile entre Algériens a continué mentalement dans l'inconscient et elle a ressurgi en 92, c'est-à-dire 30 ans après l'indépendance. Et vous avez vu que le vocabulaire de la guerre civile était un vocabulaire de la première guerre, puisque les maquisards islamistes accusaient les officiers du régime d'être des harkis.
Et des suppôts de la tyrannie.
Et des suppôts de la tyrannie, mais d'être des harkis parce qu'effectivement une partie des généraux sont d'anciens sous-officiers de l'armée française qui ont déserté pour rejoindre le Front de Libération Nationale. Et que les officiers du régime accusaient les chefs des djihadistes du maquis d'être des fils de harkis qui se vengent du combat perdu par leur père contre l'Algérie indépendante et contre le FLN. Donc les notions de harkis, de partie de la France, ce sont des accusations qui existent, qui sont toujours opératoires au moment où nous parlons. Nous ne sommes pas sortis de la guerre d'indépendance.
Ça, ce sont les faits objectifs, votre analyse sur des questions politiques, sociales. Maintenant, revenons à l'adjuvant réel ou supposé de l'islamisme politique pour la Seconde Guerre ou la guerre civile entre Algériens, enfin dans l'Algérie indépendante. Et comment se fait-il que ça puisse s'y prêter et pourquoi passe-t-on d'un islam que j'ai appelé débonnaire, apaisé, je n'ose pas dire folklorique, mais en tout cas...
Naturaliste,
agraire, voilà.
Bucolique, avec un vrai culte des fleurs, des œufs de pigeons que nous allions ramasser dans les bois au printemps pour les casser et enduire les galettes chaudes de ce jaune d'œuf de pigeon, d'œuf de perdrix. C'est un des souvenirs les plus féeriques de ma vie. Lorsque nous prenions des galettes enduites de jaune d'œuf de perdrix pour aller dans un chassé-croisé général d'un village à l'autre, nous offrir des galettes. Ça, il n'y a pas plus féerique de mon enfance que ce souvenir.
Bien. Et nous en prenons acte et je suis touché par votre ravissement et l'émotion qui sous-tend vos propos en parlant de ce souvenir. Alors comment la mutation s'est faite faire un islam rigoriste, desséchant, asséché lui-même, intransigeant et finalement assassin.
Je crois que cela a commencé lorsque nous sommes arrivés à Alger. Je suis allé à l'école de la République algérienne. Nous avions des cours de français, mais nous avions l'arabe obligatoire, ce qui était logique. Et nous avions des cours d'arabe faits par des professeurs égyptiens. Maintenant, avec le recul, et de toute façon, il y a une littérature là-dessus, c'est un fait patent, tout à fait connu, c'était des frères musulmans dont Nasser a voulu se débarrasser pour nous les envoyer, que de toute façon, au pire, ils pouvaient nous arabiser et nous islamiser, ce qui était une bonne chose puisque nous étions réputés francisés, désislamisés, d'être un peu des sous-arabes qu'il fallait réhabiliter. Bon. Et je me souviens effectivement qu'il y avait de l'islamisation dans les cours, de l'endoctrinement religieux. On nous parlait de l'enfer, de l'au-delà, beaucoup plus de l'au-delà et des supplices de l'enfer que de la vie sur terre. Ça avait commencé, mais cet enseignement islamiste, intégriste, était contrebalancé par le marxisme informel du régime qui était pro-soviétique, pro-cubain. Nous avions une influence culturelle cubaine patente. Moi-même, j'allais au centre culturel soviétique prendre de la littérature soviétique, de la musique, de la littérature Dostoïevski, Tchekhov. Bref, nous avions un matérialisme dialectique, si je puis dire, soft, qui était diffusé par le régime. Et je me souviens, nous nous moquions des vieux qui avaient des turbans. Vous savez comment, vous vous rappelez peut-être comment on appelait les turbans. On disait c'est un porteur de 33 tours. En référence au vinyle, le 33 tours. Et je me souviens, ces pauvres types enturbanés en djellaba, quand ils venaient à Alger, ils rasaient les murs tellement ils se sentaient en terre étrangère. Et évidemment, il y avait de l'alcool partout. Il y avait encore, quand j'étais en Algérie jusqu'au 73, des charcuteries. On pouvait écouter du jazz, de la salsa. Bref, c'était une...
Et le vendredi, quand il y avait l'appel à la prière communautaire ou la prière dite de congrégation, ben ceux qui sont encore attablés à leur brasserie, s'ils n'ont pas envie d'y aller, ils n'y vont pas.
Et personne ne leur en faisait reproche. Mais petit à petit, quand même, à partir des années 75-76, lorsqu'on a établi soudain le week-end, on l'a déplacé du samedi dimanche à jeudi et vendredi. Donc là, il y a un retour de bâton idéologique. Ce n'est pas une résurgence d'une piété populaire qui aurait été brimée par le semi-marxisme officiel. Non, c'est une idéologie de substitution. C'est-à-dire qu'au socialisme marxisant militant est venu se superposer, avant de le dominer, un islamisme idéologique, panarabiste, et qui est venu le bousculer. On a vu se multiplier les mosquées et on a vu les premiers maquis islamistes apparaître à partir des années 80, au début des années 80.
Avec les histoires d'un certain Mustapha Bouyali.
Bouyali, etc. Et donc, la mise en marche. Mais ce qui est intéressant, moi je crois que le motif principal de l'enracinement du salafisme acrimonieux, haineux, desséché et intolérant en Algérie vient de ce socialisme du régime a créé, c'est-à-dire qu'il a disqualifié l'islam des marabouts, le culte des saints, il l'a totalement disqualifié. Et ensuite, le salafisme, au début de la guerre civile, vous savez que les djihadistes qui sont montés au maquis en 92, un de leurs premiers faits d'armes, avant d'attaquer des gendarmes ou des policiers ou des commissariats, ils ont saccagé plus de 200 mausolée de marabouts, y compris le marabout de Sidi Ali Ouarzadini, notre saint protecteur. Je suis allé moi-même le visiter en 90 et j'ai vu un colimaçon d'excréments sur son cénotaphe.
Oh, Alors, nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, nous parlons de deux sortes d'islam. L'islam que nous continuons à qualifier d'apaisé, débonnaire, bucolique, magique, merveilleux, d'un côté, et puis petit à petit, pour les raisons que Slimane Zeghidour, l'écrivain, l'essayiste, le journaliste, le grand reporter, l'éditorialiste à TV5 Monde, nous raconte, nous le dit ici au micro, mais il le restitue merveilleusement bien, et l'adverbe n'est pas de trop, dans son ouvrage « Sors, la route t'attend » aux éditions Les Arènes. C'est un récit autobiographique depuis le village de Kabylie jusqu'à cette guerre civile, la guerre civile algérienne, et les avatars d'un islamisme haineux, et ce salafisme qui finalement, vous l'avez dit, a détruit les mausolées et votre ancêtre éponyme, votre ancêtre marabout protecteur. Comment Slimane Zeghidour, selon vous, après cette tragédie réelle, ce désastre, où les valeurs de bonté, de miséricorde, d'amour, de mansuétude, de longanimité, de magnanimité ont été perverties, avilies et bafouées, la reconstruction pourrait se faire?
D'abord, la condition première, il me semble, de toute reconstruction, c'est d'établir un bilan. Moi, je vais avoir 64 ans. J'ai assisté à deux guerres dans ma vie, dans mon pays. Deux guerres. Deux exodes. Nous avons quitté notre village en 57. Nous l'avons requitté en 92. Le village a survécu à la guerre d'indépendance qui ne l'a pas entièrement démoli. Il n'a pas survécu à la guerre civile. Mon village est aujourd'hui une ruine. Je publie dans le livre les ruines de ma maison natale. Donc faire le bilan de ce que nous avons vécu. Car l'historiographie, vous le savez, l'historiographie officielle du régime algérien sur la guerre d'indépendance, il n'y a pas que le gouvernement français qui a nié les souffrances. Le gouvernement algérien nie nos propres souffrances parce que l'historiographie officielle parle de l'héroïsme des moudjahidines, comme si la guerre d'indépendance n'était qu'une suite d'escarmouches et d'accrochage. Or, vous le savez, le volet militaire dans la guerre d'Algérie est très marginal. On n'a pas eu le dixième de Dien Bien Phu, tout simplement parce que c'était une guerre asymétrique, et que donc, quand le discours officiel parle de 1 million de martyrs, tout le monde sait qu'il n'y a pas eu 1 million de maquisards. Les martyrs sont des civils. Or, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu un colloque en Algérie, un livre, un documentaire, une cérémonie sur les déplacés qui ont tout perdu. Dont nous, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas eu pas un centime de compensation ou de réparation, je dirais pas un mot de réconfort. Déjà, prendre acte de ce qui s'est passé.
Et en finir avec l'idée d'une historiographie officielle, ce n'est pas
possible. Et d'une historiographie absurde qui, d'un côté, réclame des excuses à la France pour les souffrances du peuple algérien, et en même temps, on ne prend pas en compte cette souffrance. Elle est inaudible en Algérie. Parce qu'en Algérie, quand il y a, j'ai assisté à des séminaires d'écriture de la glorieuse guerre de libération, qu'est-ce qu'on entend dans ces séminaires ? Des moudjahides qui viennent dire « Oui, nous étions dans une grotte, on a vu un hélicoptère passer, des parachutistes qui arrivaient, on leur a tiré dessus. » C'est ça la guerre d'indépendance. Et l'arrachement de 2,5 millions de paysans, et les viols, et les veuves, et les villages brûlés, et les emprisonnements, les morts, les deuils, ça, on n'en parle pas. Vous savez, moi, je me suis livré une petite étude personnelle sur les monuments aux morts. Donc, comme j'ai une vie de grand reporter pendant 25 ans, j'en ai vu pas mal. Et j'ai trouvé deux choses. Les pays où il y a le plus de monuments aux morts, c'est la France et l'Union soviétique. Deuxième constat, les monuments aux morts en France et les monuments aux morts en Union soviétique, plus de la moitié sont à la gloire de la veuve et de l'orphelin, de la souffrance des civils. En Algérie, tous les monuments aux morts, dans leur quasi-totalité, c'est la virilité du combattant, du moudjahid qui arbore sa mitraillette, les bras levés, musclés, etc. Mais jamais de pauvres, d'enfants, guenilles, de veuves éplorées, par une espèce de machisme stupide et puéril, on demande à la France de reconnaître les souffrances des Algériens, mais soi-même on ne les exprime pas chez soi. On ne va pas demander aux gens qui ont subi ces affres de les raconter. On demande seulement aux Moudjahides de raconter leurs accrochages et leur héroïsme. Donc, tant qu'on ne parlera pas de notre souffrance, on ne pourra pas décoller ni se redresser.
Donc, le bilan, dire les mots, parler, une thérapie de la parole, d'une part. D'autre part, peut-être laisser, sûrement de mon point de vue, les questions religieuses séparées, déconnectées, désintriquées de la donne politique.
Il y a ça. Et puis, le fait qu'on ait disqualifié l'islam populaire, qui est intriqué avec des traditions, des tabous, des pratiques magiques, agraires, le fait qu'on l'ait supprimé, ça veut dire qu'il n'y a plus d'identité, comment dire, populaire. Il n'y a plus de patrimoine, de contes, de charades, de légendes, de proverbes. Tout cela a été perdu en Algérie. L'Algérie est le seul pays où il n'y a plus de paysannerie, car 50% de la paysannerie a été mise dans des camps et ces paysans ne sont jamais revenus dans leur village. L'Algérie est un pays où il y a encore des agriculteurs, mais où il n'y a plus de paysans. Il n'y a plus ce socle anthropologique du pays qu'était le Djebel. Donc, du coup, la religion, aujourd'hui, en Algérie, elle fait office d'identité. Si vous l'enlevez, il n'y a plus rien. Il y a un vide absolu. Et c'est pour ça que, si vous allez en Algérie, vous avez remarqué qu'avec n'importe qui, 60% de la conversation est autour de la religion. Soit pour la dénigrer, soit pour en faire l'éloge. Et donc, il y a un dessèchement de la vie. Et cette religion, la façon dont on en parle, c'est seulement en termes d'interdit. En fait, c'est une collection de tabous. Et les pratiques religieuses en Algérie ressemblent plus à des toques qu'à des pratiques rituelles d'apaisement, de recueillement, de concentration sur soi ou d'abstraction du monde profane pour se concentrer sur l'essentiel.
Et d'élévation spirituelle.
Non, on est dans le toc. C'est-à-dire, si vous
des troubles
vous parlez,
obsessifs compulsionnels.
Oui, c'est-à-dire que vous parlez avec un type et subitement il vous dit, c'est l'heure de la prière, il faut que j'y aille. Parce que s'il n'y va pas, il y a une angoisse mortifère qui se déclenche. Donc nous ne sommes plus dans la spiritualité, dans l'élévation de la réflexion. Non, nous sommes dans le toc.
Ou peut-être la peur de la pression communautaire, parce qu'il ne veut pas apparaître aux yeux d'autres, ne pas être un observant.
Ou un déviant. Ouais. Oui, il y a aussi le regard, le surmoi, le regard des autres. Mais dans tous les cas, il y a une absence, comment dire, de ce que moi j'ai grandi pendant la guerre. C'est-à-dire que j'avais des oncles qui se battaient dans le maquis. Moi-même, j'étais dans le camp avec des légionnaires, des tirailleurs sénégalais, mais aussi des instits, des bidas qui étaient merveilleux d'humanité. Mais je me souviens d'un monde beaucoup plus coloré. C'est pas que j'ai la nostalgie de cette période. D'un monde beaucoup plus indulgent, plus coloré, plus varié sur le plan affectif que le dessèchement auquel je fais face. Je suis par exemple atterré que des petites filles que j'ai connues quand j'ai quitté l'Algérie en 70 ne me serrent pas la main aujourd'hui, refusent de me serrer la main. On n'est pas dans un retour de la tradition islamique soi-disant ancestrale, on est dans une nouvelle idéologie importée en Algérie. Et il faut la traiter comme ça. Et je dis, il faut combattre l'idéologie, mais pas les gens. Parce que les gens sont toujours meilleurs que l'idéologie dont ils sont finalement les victimes, combien même ils sont. Ils se flattent d'en être les héros.
Nous approchons, cher Slimane Zeghidour, du terme de notre émission. Comment voyez-vous, en guise de conclusion, les perspectives à la fois d'apaisement, de réconciliation, une vision d'avenir entre les deux peuples français et algérien? Et que faire même, ne serait-ce que d'une manière symbolique, que la Méditerranée traverse
La France
et l'Algérie,
comme la Seine traverse Paris.
De Dunkerque à Tamanrasset, mais cette fois-ci, c'est le destin de deux nations et de deux peuples.
Écoutez, avec le recul, ce qui apparaît extraordinaire, c'est que l'indépendance a rendu impossible la séparation entre les Algériens et les Français, paradoxalement. Parce que l'indépendance est un acte majeur dans l'histoire des deux peuples. Mais en fait, elle a rendu plus facile les relations. Juste quelques chiffres. En 1962, il y avait 4 journaux français quotidiens en Algérie. Il y en a 27 aujourd'hui à Alger. Il y en avait 4, on en a 27. 3 fois plus qu'à Paris. Il y avait 400 000 Algériens en 62. Il y a aujourd'hui peut-être, les descendants d'Algériens sont peut-être 4 millions. C'est-à-dire 2 fois plus qu'il n'y avait d'Algériens dans toute l'Algérie lorsque la France l'a occupé en 1830. Il y a plus d'Algériens dans la seule agglomération marseillaise qu'il n'y a d'Algériens dans toutes les capitales arabes réunies. Il y a plus d'Algériens mariés à des conjoints français que d'Algériens mariés avec des conjoints de la terre entière. Tout cela pour dire que ce concubinage de 132 ans a transformé les deux peuples. Et l'erreur qu'en fait le leadership algérien et français en 62, c'est qu'ils ont pensé qu'à l'indépendance, chacun allait rentrer chez soi, penser ses plaies et faire sa vie. Eh bien non, l'histoire a joué une autre pièce. Il y a aujourd'hui une part française dans l'Algérie culturelle qui est irréversible et qu'il faut accepter. Il y a une greffe démographique algérienne dans le corps social français qui est irréversible et qu'il faut accepter. Donc aujourd'hui, il faut être dans l'acceptation de ce qui s'est passé. Il faut admettre qu'on a un destin qui est commun, qui a été bricolé par une histoire folle, une histoire de passion, d'amour, de haine, de violence. Et c'est stimulant, justement. Ce n'est pas banal. Moi, je pense qu'on devrait être très content d'avoir une histoire franco-algérienne qui est si peu banale, tellement fructueuse, et si on la prend du bon côté, c'est-à-dire de l'acceptation de la greffe française en Algérie, de la greffe française en France, on peut écrire une super histoire à quatre mains, comme on a pu le faire avec l'Allemagne.
Merci Slimane Zeghidour, merci. Tournons-nous vers un avenir radieux et dans une quête solidaire de ce sens de l'avenir. Slimane Zeghidour, vous nous avez parlé avec beaucoup de passion de votre enfance en Kabylie, de l'éruption de la guerre, de l'Algérie, des braises mal éteintes, et aussi de votre pétition de foi, mais aussi un plaidoyer vibrant pour un avenir meilleur. C'est votre livre qui nous a servi comme base de discussion ce matin. Il est édité aux Arènes, Les Arènes, sort La route t'attend. Slimane Zeghidour. Chers amis auditeurs, c'était Question d'Islam. Vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attachée d'émission est Sylvia Favre. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Claire Levasseur et la réalisation est toujours assumée par l'ami Franck Milin.